et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, nous nous réjouissons devant la crèche d'y voir venir tant de monde et après avoir contemplé l'adoration des bergers, c'est au tour des mages maintenant de s'agenouiller devant l'enfant roi. Arrêtons-nous un instant devant cet épisode si important pour notre foi de l'adoration des mages. D'abord, quelle est la connaissance des rois mages et ensuite, que font-ils ? Tout d'abord, quelle est la connaissance des rois mages ? Quelle est la connaissance que nous avons d'eux et quelle est la connaissance qu'ils ont de Dieu ? La connaissance que nous avons d'eux, il vous arrivera peut-être de rencontrer ça et là des gens qui, lisant l'Évangile mot à mot, vous diront « Mais il n'est pas marqué qu'ils sont rois, il est marqué qu'ils sont mages. » Et il n'est pas marqué qu'ils sont trois, mais il est marqué qu'ils sont plusieurs. Eh bien, si vous rencontrez des gens qui vous disent ça, méfiez-vous beaucoup, parce que l'Écriture ne se lit pas de manière fondamentale et exclusive, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des intégristes de la lettre, nous sommes des catholiques, c'est-à-dire nous lisons selon le tout, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, à l'écoute de ceux qui l'ont lu avant nous, c'est la tradition de l'Église, et les pères, dans leur intelligence de l'Écriture, ont bien compris, très rapidement, que ici nous avons affaire à des rois mages. Et oui, les pères, bien sûr, il y a des arguments de convenance qui peuvent être invoqués, ils semblent parler d'égal égal avec Hérode, ils ont l'air puissants et porteurs de présents importants qui indiquent leur condition royale. Mais surtout, mais avant tout, les pères ont lu Isaïe comme nous venons de le lire. « Les rois viendront se prosterner devant toi, venant de Madian et d'Épha et de Saba, apportant l'or et l'encens. » Les pères de l'Église ont aussi le psaume 71 que vous lirez, que nous entendrons dans le missel à la post-communion, à l'antienne de communion, où disant que les rois de Tarsis viendront adorer l'enfant Dieu. Oui, le Seigneur s'est révélé dans l'Écriture et l'Évangile nous le fait voir à condition de connaître cette Écriture. Tertullien le premier au IIIe siècle a parlé des rois mages. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, à sa suite Origène, saint Ambroise de Milan, saint Cyprien de Carthage, saint Césaire d'Arles. Bref, si vous rencontrez quelqu'un qui ne croit pas que ces mages sont des rois, certes ce n'est pas un dogme, mais il y a fort à parier, s'il vous dit qu'ils ne sont pas rois, que cette personne n'est pas totalement catholique et peut-être même pas chrétienne, puisqu'elle ne lit pas vraiment la Bible entièrement. Oui, ces rois dont la tradition nous rapporte, et pourquoi pas, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils s'appelaient Melchior, Balthazar et Gaspard, ce qui est attesté à peu près au IVe siècle, ce qui n'est pas rien, eh bien, ces rois sont venus adorer le Seigneur. Mais alors, immédiatement, se pose une question à nous, puisque ces rois viennent d'Orient, qu'ils viennent de loin, c'est certain, comment ont-ils fait pour connaître le Seigneur ? Nous ne nous étonnons pas que les bergers qui connaissaient l'Écriture, les prédécesseurs du roi David, les successeurs, pardon, du roi David, sur l'endroit même où il avait dû garder les moutons, eh bien, nous ne sommes pas surpris que les bergers aient été gratifiés d'une apparition angélique et que, connaissant bien l'Écriture sainte juive, eh bien, ils aient compris tout de suite le sens de la révélation des anges et aient vu dans un simple signe d'un enfant emmailloté dans une mangeoire le Christ venu jusqu'à nous. Mais comment ont fait les mages, eux qui ne sont pas juifs, eux qui ne connaissent pas l'Écriture ? La preuve, ils interrogent Hérode et ses scribes et ses pharisiens pour savoir ce qu'en dit l'Écriture. Ils ne connaissent pas l'Écriture parce qu'ils sont venus au Christ non pas d'abord par la foi, mais par la raison, par l'usage de leur science, par leur intelligence. Et il est important de suivre leur chemin. Ce n'est pas parce que nous avons la foi que nous devons abandonner toute intelligence. La raison naturelle est un moyen de connaître Dieu. Si vous ne dites pas cela, vous êtes anathème. Vous le savez, c'est le Concile Vatican I qui l'a proclamé avec force en 1870. Par la raison naturelle, on peut connaître l'existence de Dieu et même ses attributs, l'éternité, l'immensité, la puissance et peut-être même la paternité. Bref, il est important de lier la foi et la raison, il est important de nourrir l'une par l'autre, ces deux moyens de la connaissance humaine, ces deux moyens qui nous introduisent dans la vérité. Saint Augustin le dit admirablement, credo ut intelligere, je crois afin de mieux comprendre, et intellego ut credere, je réfléchis, je pense, j'intellige si ça existait, pour mieux croire. Oui, voilà donc les sources de la vérité, les moyens par lesquels ils nous sont révélés, la foi qui de manière certaine nous fait entrer dans cette connaissance de la vérité, et la raison qui en scrute les profondeurs, car votre intelligence n'est pas le fruit du diable, c'est déjà un don de Dieu, c'est déjà la volonté de Dieu que vous ayez cette capacité de connaître quelque chose de Dieu. Alors, la foi comme la connaissance humaine, naturelle, peuvent être dévoyées. Ici, nous en avons un exemple admirable, si j'ose dire, ou plutôt abominable, c'est les scribes et les prophètes qui savent parfaitement, par la foi, que le Seigneur va naître ici à Bethléem. Croyez-vous alors qu'avec cette annonce et connaissant l'Écriture, ils se soient jetés aux pieds du Messie ? Pas du tout. Ils sont restés chez eux tranquillement à discourir entre eux. Ce sont les mêmes qui, après avoir constaté les miracles du Seigneur, le feront crucifier abominablement. Oui, la foi, tout comme la raison, peut être dévoyée, et je n'ai pas besoin d'insister pour la raison déraisonnante, si j'ose dire, c'est-à-dire une raison orgueilleuse qui ne se contemple que soi-même, peut oublier qu'elle a pour origine Dieu et qu'elle a pour but sa propre connaissance. Voilà donc cette connaissance des rois mages qui nous réjouit. Voyons alors quelle est leur action. Leur action, elle est intérieure et extérieure. Elle est intérieure d'abord, ils réalisent quelque chose ontologiquement de très puissant. Ils viennent reconnaître le roi des rois, eux qui sont les prémices des nations. Vous le savez, le Christ, notre Seigneur, ce roi promis d'Israël, vient accomplir toute promesse et des deux peuples, il ne fera qu'un, des juifs et des païens, il n'en fera plus qu'un dans sa personne, les chrétiens. Eh bien, osons la comparaison, ce que Jean le Baptiste est pour le peuple juif, les rois mages le sont pour les païens. Oui, Jean le Baptiste, le précurseur, le dernier des prophètes et le plus grand, a eu cette grâce de reconnaître au nom de toute l'Écriture qui le précède, il a eu la grâce de reconnaître le Christ. Eh bien, les païens, au nom de la sanctification de l'intelligence et de la raison donnée par Dieu, ont eu la grâce de reconnaître le Christ. Oui, ils apportent ainsi le mouvement de l'intelligence humaine qui naturellement doit aller vers Dieu, l'offrande de toute leur vie et leur intelligence. Tout comme Jean le Baptiste a quitté le temple et sa fonction de lévite, les rois mages ont quitté les leurs, ils se sont mis en route pour aller adorer un Dieu dont ils ne connaissaient pas le nom. Voilà l'extraordinaire action des mages et nous aussi, nous devons nous mettre en route, nous les héritiers et de la foi et de la raison, eh bien nous devons nous mettre en route pour aller adorer le Seigneur et pour aller nous mettre à genoux. C'est leur action fondamentale, ils adorent et ils offrent. Ils adorent et ils adorent à genoux. Vous l'avez vu, l'Écriture insiste très lourdement, car c'est important, il le déclare à Hérode, « Nous sommes venus pour l'adorer. » Et voyant le Seigneur, ils se mirent à genoux et l'adorèrent. Oui, ce n'est qu'à genoux que l'homme est grand, ce n'est qu'à genoux que l'homme connaît sa véritable condition et qui est Dieu, ou en tout cas quelque chose de ce qu'est Dieu, c'est-à-dire qu'il est tout et que je ne suis rien. Ce faisant, en se prosternant devant le Seigneur, dans toute la tradition biblique, la proskynèse, l'adoration, la prosternation, c'est le signe profond de l'adoration et de la connaissance de Dieu. On ne se met à genoux devant personne quand on est un homme libre, mais on se met à genoux devant Dieu, parce que cela nous rend encore plus libres de savoir qui je suis et qui il est. Oui, tout à l'heure, en venant vous agenouiller au banc de cet autel, si vous en avez physiquement la possibilité, mais on s'agenouille de toute façon d'abord intérieurement, et l'agenouillement de nos corps n'est que la signification de notre volonté d'adorer Dieu, eh bien en vous agenouillant tout à l'heure au bord de l'autel, vous serez comme les mages à la crèche, vous déposerez toute votre vie, vous adorerez le Seigneur dans la réalité de sa présence, tout voilé qu'il était de l'humanité à la crèche, tout voilé qu'il est ici du pain à l'autel. Voilà l'action essentielle des mages, ils sont venus nous enseigner l'attitude de l'homme envers Dieu, c'est l'adoration. À Dieu est dû tout honneur et toute gloire, l'adoration lui est due, ce n'est pas un effet de notre bonté ou de notre grandeur quand nous adorons Dieu, c'est l'acte le plus naturel ou le plus surnaturel de notre âme qui reconnaît Dieu. Enfin, ils firent à Dieu une offrande, une triple offrande que la tradition n'a pas manqué de commenter amplement, l'or, l'encens et la myrrhe, tout comme le prophète Isaïe l'avait prophétisé pour l'or et l'encens. Ils offrent l'or comme on offre à Dieu, à un roi, pardon, de quelque chose de précieux. L'or est un cadeau royal qui signifie que tout doit lui revenir. Voilà pourquoi les impôts sont normalement levés en or, même s'ils sont démonétisés aujourd'hui, dématérialisés, pardon, cela revient au même, au roi des rois, même au roi de la terre, revient cet or. Et nous qui savons bien qui est le roi des rois, nous voulons lui offrir encore l'or de cette terre. Voilà pourquoi la tradition de l'Église a conservé que les vases sacrés, fussent-ils d'un matériau moins noble, fussent-ils de cuivre ou de simple zinc, soient dorés à l'intérieur de la coupe, pour que notre Seigneur, venant dans sa présence réelle, y trouve sur la patène et dans la coupe du calice l'or que nous voulons lui offrir toujours. Cette magnificence dans la liturgie est toujours le signe d'une adoration droite et véritable. Dites-vous bien qu'à chaque fois que diminue la magnificence des ornements ou des vases sacrés qui sont réservés au Seigneur, c'est la diminution de l'adoration qui est manifestée par ceux qui ne se croient plus obligés d'offrir l'or à Dieu. Et en général, c'est concomitant à la croissance de leur propre dépravation, c'est-à-dire qu'ils s'offrent l'or à eux-mêmes et ceux qui ne font pas bombance à l'autel le font bien chez eux. Pour dissimuler leur turpitude, ils tentent de dissimuler la gloire de Dieu à l'autel. Oui, l'encens, ensuite, c'est l'encens qui est offert à Dieu. C'est un cadeau divin. Dans de nombreuses religions, c'est ainsi. C'est un bien précieux, une résine fossilisée très précieuse qui vient d'Orient. Et peut-être en avez-vous rapporté de Jérusalem, si on était sûr. Eh bien oui, cet encens précieux a pour but de manifester l'offrande totale de notre vie, car ce bien précieux part en fumée, stricto sensu. Il est offert jusqu'à disparaître. C'est le sens spirituel de ce cadeau qui, aussitôt qu'il est offert, disparaît en fumée, parce que l'esprit est insaisissable et que nous espérons bien que notre prière monte comme cet encens vers Dieu. Le dernier cadeau qu'offrent les rois mages est un cadeau à tout à l'inverse bien humain, c'est la myrrhe, le plus précieux des aromates pour embaumer les morts. C'est un signe prophétique qui reconnaît, après avoir reconnu la divinité, la royauté du Christ, qui reconnaît bien son humanité. C'est dans l'humanité que Dieu a voulu être adoré et sanctifié. C'est le sens de la charité chrétienne, toujours et partout, qui, faisant le bien, ne fait que propager l'adoration qu'elle rend à Dieu en honorant les membres du corps qu'il a voulu sanctifier. C'est ainsi que les chrétiens de par le monde ont été les auteurs, toujours et partout, d'œuvres de charité extraordinaires et incroyables, pensant aux pauvres, aux orphelins, aux abandonnés, aux malades, comme aucune autre civilisation n'y a pensé. C'est normal, c'est l'incarnation qui nous fait sans cesse offrir la myrrhe à Dieu en honorant les membres qui en sont. Voilà comment il nous faut nous offrir nous-mêmes. En voulant tout donner à Dieu, vous trouverez l'unique nécessaire. Tant que vous n'avez pas trouvé Dieu, vous n'avez rien trouvé d'essentiel dans votre vie, c'est-à-dire rien qui ne disparaîtra à votre mort. Prions, mes bien chers frères, que nous agenouillant devant la crèche et nous agenouillant au pied de cet autel, nous soyons comblés de la vision, de la compréhension, de l'illumination de cette présence, afin que, comme les mages, comme les rois mages, nous soyons habités d'une très grande joie. Ainsi soit-il.